7 milliards de voisins. Avec Emmanuel Bastide, pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins et de voisines. Aujourd'hui, et si manger était un acte citoyen ? Bonjour Alain Ducasse.
Bonjour.
Vous publiez justement « Manger est un acte citoyen » avec Christian Regoubi du Collège culinaire de France. Bonjour Christian Regoubi.
Bonjour.
Alain Ducasse, faut-il encore vous présenter ? Vous êtes le chef le plus étoilé au monde et dans la durée. 3 fois 3 étoiles dans 3 restaurants, Paris, Monte-Carlo, Londres et puis tous les autres, puisque vous êtes chef d'un groupe. C'est quand on a tout réussi qu'on a envie de penser la cuisine de manière plus politique finalement ?
C'est parce qu'on a commencé très jeune à avoir cette formation, puisque je suis né dans une ferme, que finalement, quelques 50 ans plus tard, on a envie de retourner et de faire partager mes goûts et mon expérience originelle.
Et on reconnaît l'accent du Sud-Ouest. Je vous parlais de politique, pas seulement parce qu'on est à 4 jours de l'élection présidentielle, mais vous avez aujourd'hui la nationalité monégasque. Est-ce que vous allez voter quand même ?
Ah non, je ne vais pas voter. Non, je vote à Monaco.
Bah vous avez la double nationalité, non ?
Non, je n'ai pas de double nationalité.
Ah, d'accord.
J'ai passé plus de temps à Monaco et je suis un acteur de la cuisine française dans le sens de l'ADN de la cuisine française et des produits qui m'entourent. En fait, c'est ce que... Je fais la cuisine de cette manière-là. C'est ce dont je dispose, ce que je sais, c'est ce que je fais là où je suis. Et là où je suis originellement, c'est originaire du Sud-Ouest, d'une ferme en Chalosse. J'ai passé plus d'un quart de siècle à Monaco, au bord de la Méditerranée. Et de cette synthèse-là, j'ai appliqué l'ADN du savoir-faire de la cuisine française, ce qui me permet de diffuser mon expertise et de la transmettre au travers des écoles un peu partout dans le monde. Voilà qui je suis.
Voilà. Et vous, évidemment, vous êtes l'étoile de la cuisine française, même si vous n'êtes plus un citoyen français, comme vous le disiez. Vous êtes aussi coprésident du Collège culinaire de France, qui regroupe des chefs, des producteurs, des restaurateurs de qualité. Également avec nous, Christian Abégan, bonjour.
Bonjour.
Chef de cuisine camerounais, et vous avez publié Le patrimoine culinaire africain. Et on en a bien besoin de ces livres qui retrace ce patrimoine culinaire avec des recettes. Il n'y a pas d'ailleurs d'histoire réellement de la cuisine africaine. On manque de littérature sur le sujet.
Oh, il y a quand même des manuels qui ont été faits il y a quelques années, mais je reviens toujours sur le fait qu'on doit parler d'afro-continentalité culinaire parce que c'est un continent, c'est 54 pays, c'est 1,2 milliard d'habitants, donc il y a quand même un foisonnement culturel de produits, de techniques, d'histoires qui est vraiment nécessaire à être connu.
Les Africains, en tout cas, découvrent depuis quelques années, à la faveur de l'urbanisation, la magie des aliments transformés, sans mauvais jeu de mots, la cuisine emballée, toute prête, parce que chez vous aussi, il a été décidé qu'on n'avait plus de temps pour cuisiner, plus le temps du tout, voire parfois. Vous allez nous parler de ce patrimoine culinaire africain incroyablement varié, vous le disiez, puis qui reste aussi pour les chefs européens un peu le dernier continent à découvrir, non, finalement, Alain Ducasse ?
Bien sûr, j'ai voyagé un peu partout et je connais pas l'Afrique, et c'est certainement...
L'Afrique subsaharienne, c'est ça, hein ?
Périple.
Oui.
J'ai un guide. Mais...
c'est ça. Guide. Et chez vous, les voisins, alors comment manger une nourriture saine, authentique et locale ? Vous pouvez nous appeler si le cœur vous en dit pour participer au dialogue avec nos invités ou pour poser des questions au chef. 33 1 84 22 71 71 et tous vos messages sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter. Stéphane Adouala sur Twitter nous dit « Manger responsable, c'est penser à ses 7 milliards de voisins en limitant le gaspillage, en étant éco-responsable dans les choix alimentaires. » Ça, c'est sur le papier, dans l'assiette, c'est une autre histoire. Souni, N'Djamena, au Tchad, pour parler de cuisine, il faut d'abord que la qualité soit accessible en Afrique. Moi, j'ai l'impression que la majorité des gens ici est omnivore. On mange presque de tout, vu les nécessités. Au Tchad, nous avons de petits restaurants de nourriture locale, comme les boules accompagnées de sauce verte, les galettes, la soupe au pain. Et pourtant, beaucoup préfèrent aller dans les restaurants chics et coûteux, où le poulet vient d'ailleurs. En tout cas, la restauration fonctionne bien, parce que dans les foyers, les gens préparent à manger, mais ne savent plus faire la cuisine. C'est un drôle de constat, Christian Abégan.
Parce qu'effectivement, il y a cette urbanisation qui a déposséder les campagnes quand même de personnes qui peuvent connaître déjà les produits alimentaires. C'est l'exode rural a presque disséminé et déstabilisé les cultures. On a moins de personnes qui peuvent essayer d'entretenir la qualité et la pérennisation de certaines, rien que par exemple des plantes médicinales. Parlons de cela. Oui. Donc on en a de moins en moins parce qu'on n'a pas de personnes qui peuvent continuer à prédire ces cultures-là.
Ouais, ça vous rappelle quelque chose, une histoire, celle de votre famille, de votre région, Alain Ducasse,
oui,
ou pas?
Je suis dans une ferme et si j'étais au printemps il y a 50 ans, j'étais tout jeune. À 11h30, ma grand-mère disait « On va manger quoi à midi ?» Eh bien, on se rendait au jardin, on arrachait quelques légumes, on les mijotait comme bout de lard du cochon de la ferme et ça faisait le déjeuner. Et c'était aussi parce que le boucher n'était pas tout prêt et que les produits de la ferme nous suffisaient largement puisqu'on élevait aussi des volailles, des cochons, des dindons, des lapins.
Ouais. Ouais. Vous êtes fils d'agriculteur et pour le drame de vos parents, vous n'êtes pas devenu agriculteur.
Oui, et finalement, je suis très content parce que je suis un activateur d'agriculture.
Un activateur partout, d'agriculture.
Partout. J'ai une attention
l'expression.
Particulière envers ceux qui font les paysans, les hommes et les femmes, les pêcheurs, les ramasseurs de champignons, les éleveurs, les cultivateurs me permettent d'exercer mon artisanat et c'est grâce à eux que j'existe.
Je lis un dernier message, celui d'Awa à Dakar, ça c'est pour vous Christian Abégan. Nous, les jeunes cuisiniers d'Afrique, nous sommes fiers de lui. Je n'ai jamais eu la chance de réussir son concours de cuisine, mais j'y crois toujours.
Oui, bientôt sûrement.
Toutes vos questions pour retrouver, en tout cas retrouver votre patrimoine culinaire dans votre pays, bien sûr, vous pouvez nous appeler au 33 1 84 22 71 71.
Un sachet, 3/4 de litre d'eau. Et voilà, incroyable. Je croyais vraiment boire de l'orange pressée.
Vita cuisine est comme à la maison, qui garde toute leur saveur de leur emballage, fraîcheur au réfrigérateur.
Vous voulez que vos enfants mangent de bonnes choses, comme des noisettes, du lait, du sucre et un peu de cacao sur une seule tartine? Regardez. Tiens, voici du pain et du chocolat.
Tu crois vraiment que c'est du chocolat?
Ah non.
C'est ta mère, alors que ça c'est bon.
Le plat que j'ai imaginé pour la boîte noire est un chaud-froid de bœuf en cuit et cru en mijoté moderne.
Ça c'est deux plats du jour, avec des blettes, c'est de la saison, brocoli, c'est de la saison, patates, c'est de la saison, et puis un petit navara d'agneau, voilà.
Donc là je vais vous préparer un caviar d'aubergine au coulis de tomate. Donc nous prenons ces belles aubergines que nous allons fendre dans le sens de la longueur en deux. Nous assaisonnons les aubergines de sel et poivre, nous les recouvrons de tomates. On fait bien détacher les oignons, on va parsemer de thym, et voilà, le plat est prêt à cuire.
Nous vivons une époque tout de même sacrément paradoxale. On n'a jamais aussi mal mangé au quotidien, il suffit de regarder ce qu'il y a dans les chariots des supermarchés. On n'a jamais autant parlé de cuisine, non, Christian Regoubi?
Oui, alors par rapport à ce que vous dites, il y a quelque chose qui me frappe depuis le début de l'émission et qui est vraiment passionnant parce que c'est même la source de réflexion que nous avons eue avec Alain Ducasse. C'est qu'en fait, vous parliez de citoyens, etc. Mais il y a quelque chose qui est incontournable pour l'ensemble des hommes et des femmes qui sont sur la Terre, c'est de manger. En tout cas pour ceux qui ont la chance de manger à leur faim. Et donc c'est ce qui relie les hommes et les femmes. Donc par définition, quand on réfléchit à ça, on se dit qu'on est d'abord citoyen du monde, obligatoirement. Ça dépasse toutes les frontières. La deuxième chose, et ça a été très bien évoqué également depuis tout à l'heure, c'est que tout repose sur la diversité. C'est-à-dire que quand on parle de manger, obligatoirement, on parle de diversité. Et là, effectivement, comme vous dites, on n'a peut-être jamais disposé d'autant de nourriture et peut-être aussi mal mangé. C'est un peu comme la communication. On n'a jamais disposé d'autant de moyens de communication et on a de plus en plus de difficultés à communiquer. C'est ce qui aussi nous a reliés avec Alain Ducasse. Donc, l'industrialisation de la nourriture, effectivement, pose problème. Pose problème.
Alain Ducasse, vous en tant que restaurateur, vous dites dans votre livre, vous avez maintenant à portée de main des produits extraordinaires, évidemment coûteux,
donc,
mais dans les chariots.
Les produits extraordinaires, c'est un simple pois chiche parfaitement cultivé, va nourrir une famille avec quelques légumes verts de saison.
Un pois chiche dans l'assiette?
Non, un kilo de pois chiche, vous nourrissez 10 personnes avec quelques légumes de saison à côté. Il n'est pas nécessaire d'avoir de la protéine animale. En tout cas, je ne suis pas un gourou qui dit « il ne faut pas manger ». Je dis que si on mange la protéine animale, il faut qu'elle soit de bonne qualité. Ainsi, on a besoin de moins en produire. Il vaut mieux manger une belle volaille une fois par mois que de manger de la mauvaise volaille importée du Brésil une fois par semaine. Donc il faut manger moins, manger mieux, moins de gras, moins de sel, moins de sucre. Inverser les proportions. Et ainsi, sur cette planète, tout le monde pourra accéder à la nourriture et manger à sa faim. Ce qui n'est pas le cas pour l'eau. L'eau, on n'a pas beaucoup de moyens de que tout le monde ait accès à l'eau.
Oui.
Mais à la nourriture, tout le monde peut avoir accès à la nourriture si des individus qui sont surnourris acceptaient que le sous-nutri puisse accéder à une nourriture. Encore faut-il que les surnourris consomment différemment.
Et sur le continent africain ?
Oui, cette antériorité participe aussi parce que le repas traditionnel en Afrique, c'est 20 grammes hein, de viande, peut-être par personne, tous les deux jours. Ce n'est qu'un élément de fête quand on consomme donc de la viande. Ou de la,
des petits morceaux dans un plat.
Et souvent même pas, c'est le dimanche forcément. Moi j'ai grandi avec très peu de viande. Donc forcément, c'est une hérésie pour un Africain. Pour ceux qui maintenant ont la possibilité de pouvoir avoir des côtes de bœuf de 1 kilo à table tous les jours, alors que foncièrement, c'est pas comme ça qu'on se nourrissait. Il faut déjà voir comment les pygmées, comment ils se nourrissent dans la forêt. C'est des repas à base de feuilles, de quelques graines et des produits de chasse ou de pêche. Donc forcément, on ne détruit pas. Donc c'est très très rare d'avoir autant de protéines sur les plats.
Pour vous, Alain Ducasse, le symbole de l'ineptie culinaire, de la nourriture désincarnée, de la nourriture non citoyenne, qu'est-ce que c'est ? Le truc qui vous énerve, là, en permanence.
C'est tout ce qui a voyagé en avion et qui a fait des dizaines, en tout cas des milliers de kilomètres. Et c'est quand je suis au Brésil, dans ma chambre d'hôtel, que je bois un café brésilien qui a voyagé dans une capsule, qui a fait le voyage du côté de l'Europe, qui a été encapsulé, qui refait notre voyage dans une capsule. Il a fait exactement 15 000 km ce café. C'est absolument impossible de continuer ainsi.
C'est aussi, en complément de ce que dit Alain Ducasse, ne pas avoir conscience de ce que l'on mange. Et ça, c'est quelles que soient les catégories sociales, prendre conscience de ce que l'on mange et des effets que cela peut avoir, c'est fondamental, ouais. C'est ce qu'on essaie d'expliquer dans le livre.
C'est pas évident de s'informer. Attendez, moi-même, j'ai découvert que 99% des cornichons en France viennent d'Inde, 70% des escargots de Bourgogne viennent de Pologne, Ukraine, Biélorussie et Chine, puisqu'on a le droit de marquer escargots de Bourgogne à partir du moment où il y a le beurre et l'ail, là, c'est oui, ça, la sauce hein, le... 2% des escargots seulement sont français. Le saucisson, la charcuterie certifiée 100% corse, la plupart du temps, c'est fait avec des porcs sud-américains. Et les 2/3 des asperges en bocaux et 1/3 du concentré de tomates vendu en France viennent de Chine.
Mais ça, c'est 1/1000ème de la réalité. Donc, ça veut dire qu'il faut se rapprocher vers des marchés locaux, connaître son producteur, son fournisseur, son éleveur, recréer le lien social et que l'acte de manger devienne d'abord un acte de sourcer, de partager la préparation avec ses enfants, de partager avec les amis que vous avez invités dans un monde googlisé, globalisé, mondialisé. Et si la notion de se nourrir et de partager, d'échanger pendant le temps du repas, c'était un vrai plaisir qu'il faut commencer à l'origine. De savoir ce que vous mangez, c'est une décision.
Mais vous êtes un homme d'affaires qui rencontre d'autres hommes d'affaires.
Je suis un cuisinier et les affaires, j'ai suffisamment de collaborateurs que je paye pour s'en occuper.
Quand vous recevez parmi vos clients le PDG de Danone qui met des fruits surgelés chinois dans ses yaourts, vous lui dites quoi ?
Mais je ne le reçois pas.
Non mais vous avez dans votre clientèle ces gens-là.
Non, vous voulez parler de Franck Ribou, c'est une société mondiale. Je n'ai pas envie d'en acheter, je ne suis pas obligé d'en acheter. D'ailleurs, c'est le consommateur...
Non, mais comment vous parlez de ce sujet-là avec ces gens-là qui précisément sont vos clients dans vos restaurants ?
On échange et c'est en cela que nous existons, c'est pour essayer de trouver des solutions, non pas de s'opposer, mais essayer de discuter avec eux pour savoir comment demain sera fait. Et je suis sûr qu'ils sont aussi, comme nous, en train de chercher comment ils vont pouvoir changer la route, comment ils vont pouvoir s'orienter différemment.
Ils le sont quand on les rencontre en tant qu'individus, bien évidemment, ils sont conscients de ça. Maintenant, ils ont des responsabilités de société, des responsabilités financières. Mais je voudrais revenir sur ce que disait Christian Abégan tout à l'heure sur l'utilisation des protéines. Ce qui est très très intéressant, c'est que l'utilisation des protéines et le fait de consommer beaucoup de protéines et de la viande 2-3 fois par semaine, ça a été lié au départ à une notion culturelle de statut social. C'est-à-dire avoir accès à la protéine, à la viande, c'était une question de statut social. Ce n'était pas du tout une question de nourriture en elle-même. Il ne s'agit pas de revenir en arrière, il s'agit de bien équilibrer les choses par rapport à des enjeux qui sont planétaires et des enjeux individuels pour sa santé. Ce qui fait du bien à la santé fait du bien à la planète. C'est complètement lié.
Christian Abégan, les cuisines africaines sont marquées par des brassages. On peut tout de même distinguer. Vous citiez les cuisines de la forêt, il y a les cuisines du Sahel, il y a les cuisines aujourd'hui qui sont extrêmement urbanisées. Et puis il y a eu le fameux tsunami du riz en Afrique.
Oui, effectivement.
Qui a tout recouvert.
Et puis beaucoup de pays essayer de favoriser cette culture de riz. Mais c'est au détriment de d'autres
facile.
Produits.
C'est beaucoup plus facile, ça produit plus vite.
Plus vite peut-être, mais on a quand même des céréales comme le fonio qui demande le minimum d'eau et qui a une rentabilité beaucoup plus intéressante et puis qui est très très bien pour la nutrition donc, des enfants. Donc par exemple, si on arrivait à faire des surproductions donc, de fonio dans certaines régions où il y a la malnutrition, on pouvait essayer d'éradiquer une partie de cette malnutrition en faisant des suppressions sur certains produits. On a beaucoup de produits, mais des produits qui ont tendance à disparaître. C'est pour ça que le principe des...
Qu'est-ce qui disparaît alors, par exemple, en ce moment?
Par exemple, la feuille d'amarante, la feuille d'oignon, ce sont des feuilles qui sont consommées dans la cuisine togolaise. C'est plus des plats ancestraux, des plats qui datent de 200, 300 ans. Et on n'arrive plus à les retrouver parce qu'effectivement, il n'y a plus les souches même de ces plantes. Ces plantes sont très bien pour la santé et contre la malnutrition. Et il y a beaucoup des jardins potagers qui se sont installés au prorata et en Afrique maintenant dans plusieurs pays pour déjà donner une impulsion aux jeunes et aux populations de pouvoir connaître, identifier certains leurs produits locaux et les réinsérer un peu pour ceux qui ne sont plus cultivés de nos jours.
La cuisine africaine est encore largement inexplorée, vous le disiez, vous le confessiez vous-même à Alain Ducasse, hein, c'est le continent où vous allez le moins, voire pas du tout, en Afrique subsaharienne. Est-ce que c'est parce que la cuisine africaine...
Mais vous pouvez
aller partout. Oui, non, bien sûr. Mais est-ce que c'est parce que la cuisine africaine n'est pas assez légère, pas assez raffinée, comme certains le disent, parce qu'elle nécessite encore des aménagements pour entrer dans un patrimoine mondial?
Le raffinement d'une civilisation...
C'est ce que vous dites dans votre livre, en tout cas,
Christian Abégan. Oui, c'est ce que les gens pensent, parce qu'effectivement, effectivement, vous savez, quand on n'a pas une codification particulière, on n'a pas eu d'escoffier chez nous pour pouvoir essayer de dire voilà un livre pour pouvoir essayer de. Voici une base, comment on doit faire une sauce. Vous avez certains produits et vous avez 36 recettes dans un même pays. Donc, le travail de recherche que moi j'ai fait, c'est de trouver la recette qui correspondait, comme il a dit le chef Alain Ducasse, avec l'ADN de fabrication et culturel et de ce que moi j'avais appris en France au cordon bleu. C'est que de pouvoir se dire voilà comment on peut faire une recette. Mais c'est beaucoup de choses qui sont totalement fausses.
La cuisine du Sud-Ouest n'est, ceci dit, pas une cuisine réputée pour sa légèreté.
Non, mais c'est une décision. Naturellement, on mange plus sain aujourd'hui qu'on mangeait avant. Les cuisines traditionnelles, elles ont nécessité d'être contemporaines. Être contemporaine, ça veut dire qu'elles doivent nourrir le consommateur d'aujourd'hui, pas celui de 2030, celui d'aujourd'hui. Et celui d'aujourd'hui, il faut l'orienter vers une cuisine plus saine, dont l'équilibre alimentaire est plus précautionneux de sa santé et en conséquence de la santé de la planète. Donc ça veut dire qu'il faut inverser la consommation des protéines et il faut enlever du gras, il faut enlever du sel, il faut enlever du sucre, il faut décider de consommer différemment. Mais c'est ce que nous avons essayé de démontrer au travers du restaurant Alain Ducasse que c'était possible de faire de la gastronomie et c'est l'ombre portée de cette image qui permettra de dire oui, on peut faire très bon en faisant différemment.
Alors, c'est une décision. Il y a beaucoup encore de regards à croiser entre vos différentes cuisines avec vous Christian Abégan parce que dans votre livre il y a beaucoup aussi autre chose que de la viande, l'ignamdou, la bouillie de maïs fermenté, le pain de manioc fermenté, les beignets de haricots, les feuilles de patates douces à la crème d'égousie. Vous connaissez ça Alain Ducasse?
Non, mais je vais me rendre auprès du chef pour aller goûter.
Christian Abégan.
Il y a une diversité plurielle au niveau des produits. On était d'abord, quand vous voyez des pays comme le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Gabon, ce sont des pays où on consomme énormément de feuilles. Énormément de feuilles. Vous avez, dans un ménage moyen, c'est la cuisine des forêts, là.
Hein.
Oui, pratiquement. Mais même si ce n'est pas celle des forêts, il pleut quand même à certains moments, des moments précis, même au Sahel. Mais on sèche les feuilles, on récupère. Donc, on fait donc des sauces qui ont des liants avec des feuilles séchées, des feuilles de gombo, la plupart des feuilles qui sont séchées et des produits séchés. Donc, forcément, c'était quelque part une cuisine au départ presque essentiellement végétarienne au départ.
Alors justement, on va en parler avec vous, Alain Ducasse, juste après le flash, le grand retour des légumes. On découvre ça dans votre livre « Manger est un acte citoyen ». Vous restez tous avec nous, les voisins et les voisines, bien sûr. Vous pouvez nous appeler, on se retrouve dans 3 minutes.
7 milliards de voisins, on est ensemble.
Bienvenue si vous nous rejoignez, 7 milliards de voisins sur RFI du lundi au vendredi. Aujourd'hui, nous parlons cuisine avec le chef Alain Ducasse qui publie avec Christian Regoubi du Collège culinaire « Manger est un acte citoyen ». Et puis nous croisons ces regards et cette prise de conscience française avec une prise de conscience africaine. Christian Abégan, vous êtes chef de cuisine et vous publiez « Le patrimoine culinaire africain ». Évidemment, le débat continuait bon train pendant le flash. Christian Regoubi, vous souhaitiez réagir sur cette prise de conscience urgente sur la façon de manger autrement désormais.
Oui, parce que en fait, les nutritionnistes nous disent nous sommes ce que nous mangeons. Mais comme on ne sait plus ce que l'on mange, on peut se poser des questions si on sait ce que nous sommes. Qui nous sommes. En fin de compte, il y a cette relation-là. Et ce qui est très important, c'est que l'enjeu est un rapport de force phénoménal. Pourquoi ? Parce que, en fait, si on ne prend pas conscience, parce qu'on dit qu'on n'a pas le temps, parce qu'on va vers des nourritures faciles, industrialisées, etc., ça veut dire qu'on est anesthésié progressivement et qu'on est asservi progressivement. C'est-à-dire qu'on perd notre liberté si on ne va pas chercher des produits et si on ne fait pas la cuisine. Il faut bien comprendre ça. Ça va beaucoup plus loin que simplement dire c'est bien, c'est pas bien, etc. C'est un enjeu véritablement de liberté individuelle. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut que nous reprenions le pouvoir à travers ce qu'on a dans l'assiette. On a beaucoup plus de pouvoir citoyen dans l'assiette qu'on en a aujourd'hui dans les urnes.
Alors, en même temps, vous êtes quand même assez honnête, Alain Ducasse. Vous dites « manger bon et sain pour 400 euros dans un 3 étoiles, c'est facile. Il y a des produits rares, des préparations légères, mais manger bon et sain pour 1,30 euros dans une cantine scolaire, c'est nettement plus difficile. » Je vous cite. Là.
Oui, mais c'est au milieu que ça se situe. Pour la nourriture familiale, on peut manger avec peu d'argent et infiniment plus sainement. Mais le défi, il est qu'il faudrait dépenser un tout petit peu plus pour nourrir les enfants dès leur plus jeune âge. Mais toujours avec l'orientation de moins de gras, moins de sel, moins de sucre. Et aujourd'hui, pour avoir audité, je suis allé voir ce que mangeaient les enfants de 3 ans et demi dans les maternelles partout en France. Ils mangent mal. Il vaudrait mieux qu'ils mangent mieux, moins de protéines, plus de légumes, plus de céréales, moins de sucre, moins de sel. Voilà, mais c'est une décision. Mais est-ce que les parents, puisque à la maison, ils ne sont pas dans cette
quelles sont vos actions dans ces cas-là, dans ces organismes dont vous faites partie?
D'abord, puisque... j'ai une entreprise qui fait du conseil après la restauration collective du plus jeune âge jusqu'au cinquième âge. Et ensuite, au travers de Good Planet, la fondation de Yann Arthus-Bertrand, nous avons un projet au domaine de Longchamp, projet à Porte-Maillot, où on pourra se rendre depuis la Porte-Maillot en véhicule électrique pour découvrir une manière différente de se nourrir. Ça sera ouvert à la fin de l'année, au début de l'année prochaine, avec un sponsor qui est un partenaire de l'alimentaire de masse qui sera Elior. Donc pour exprimer qu'on peut désormais manger différemment, parce que c'est une décision, mais il faut le démontrer. Il faut montrer.
Et sur le terrain, est-ce que ça s'améliore vraiment dans la restauration collective ?
Oui, bien sûr, ça va s'améliorer. Il ne faut pas faire que constater, il faut accompagner cette réorientation. Est-ce que c'est ce que nous faisons ? Enfin voilà, on le fait.
Faire pression sur l'agro-industrie ?
Oui, nous sommes... Pour faire pression sur l'agro-industrie, il y a plusieurs éléments, mais parce qu'ils se rendent bien compte, sous la pression des consommateurs, qu'ils doivent faire un certain nombre de choses. Mais souvent, c'est de l'habillage marketing. Donc nous avons des actions, même au sein du Collège culinaire de France, et notamment l'éducation des enfants est fondamentale. Et ça commence aussi dans les familles, c'est-à-dire prendre conscience que le goût, l'apprentissage du goût est éminemment politique, parce que l'apprentissage du goût, elle est d'abord sur le sucré et sur le salé, et parce que c'est les goûts les plus faciles à appréhender, et que l'amer et l'acide, qui sont les deux autres goûts, demandent une initiation. Si vous ne la faites pas, vous restez addictif dans votre état adulte, et vous restez asservi à l'agro-industrie. C'est extrêmement simple.
Gras, sucré, salé.
Voilà. Exactement ce que l'Afrique est en train de découvrir. Gras, sucré, salé.
Oui, mais c'est possible.
Est-ce que l'Afrique peut faire l'économie des bêtises de l'Europe, de cette étape de l'agro-industrie qui a effectivement limité la capacité à goûter ?
Oh, il y a les drames de la mondialisation. Mais il y a quand même des unités, où j'insiste, qui pérennisent cette culture, qui pérennisent ce retour aux sources traditionnelles, où il y avait une forme de qualité dans ce qu'on pouvait manger. Il y a une contrée au Cameroun, le royaume Bamoun, que vous connaissez, Emmanuel, où la reine qui avait régné au 15e siècle, sur un royaume de 5 siècles, hein, elle disait que dans une assiette, il y a la santé, la vie, l'amour, la finesse, le plaisir véritable. C'est une véritable ordonnance de vie. Il y a des plats qui font là-bas et qui faisaient, il y a 500 ans, végétarien pratiquement. Et le roi qui est actuel,
à base
donc,
de quoi
le sultan, à base d'une polenta de maïs, farine de maïs, et puis des feuilles qui sont comme une variété d'épinards, des feuilles assez douces, et on met juste un liant qu'on appelle égoussi, qui est le cousin germain de l'amande effilée, juste pour donner et tenir cela avec très peu de... Et c'est comme ça que les gens mangeaient avant. Et ce sont des plats qui sont donc restés. Donc, en Afrique, il y a quand même cette traditionnalité culinaire qui persiste, mais ce véhicule des produits venant d'ailleurs, et puis qui ne sont pas bons nécessairement pour la santé, et puis cette horreur de bouillon cube aussi, qui dénature aussi les recettes. Parce que les goûts ne sont plus respectés à ce moment-là.
On en discute ou pas de ça dans les familles africaines,
absolument,
dans les cercles, dans les communautés?
Absolument, de la formation. C'est pour ça que tout le travail que je fais avec mes équipes, c'est pour sensibiliser déjà. Et même dans les familles, on leur dit, parce que c'est des produits surchargés en sel. C'est beaucoup de produits chimiques aussi.
Mais le matraquage publicitaire, il est plus puissant que...
Oui, forcément.
C'est un discours des familles. C'est énorme, énorme.
Mais il faut qu'on se parle, parce qu'on ne peut pas s'opposer. On ne peut pas faire que constater et s'opposer. Il faut se rencontrer pour réorienter. Ce n'est pas évident de réorienter.
Alors, en France,
la grande distribution. Ils ont les mêmes problèmes parce que les marges sont de plus en plus petites. On met de plus en plus de choses dans les rayons. Les chariots sont de plus en plus pleins. Il y a davantage d'emballage. Il doit y avoir, sur un chariot plein d'hypermarché, il doit bien avoir entre 5 et 10% d'emballage, de poids d'emballage. Tout ça va à la poubelle, va être recyclé. Sans compter les produits alimentaires qui vont aussi aller à la poubelle.
Des consommateurs, vous allez parfois dans un supermarché, Alain Ducasse?
Oui, je vais dans un supermarché. Je viens de passer 2 heures dans un supermarché, bien sûr.
Enfin. Oui.
Mais bien sûr, je vois ce qui s'y passe. Ouais.
Vous voyez bien que, par exemple, le consommateur, la consommatrice achète une sauce de salade toute prête.
Oui,
achète une mayonnaise toute prête.
Et pourquoi? C'est son choix.
C'est plus cher que de la fabriquer soi-même avec de l'huile, du vinaigre. Ouais, on est bien d'accord.
Mais c'est sa décision.
Eh bien, je vous pose la question.
Bah, il faut qu'elle décide de se nourrir, parce que c'est plus facile.
Et si on n'a pas envie de faire ces gestes-là?
On peut rester asservi toute sa vie, bien sûr. Non, mais on peut rester esclave toute sa vie, mais c'est ce qui est en train de se passer. C'est ce qui est véritablement
sous
en train
le matraquage de la publicité.
Le système dans lequel nous sommes est quand même très très clair. De l'agriculture jusqu'à l'agro-industrie, le système ne peut plus produire sans détruire plus qu'il ne produit.
Voilà, point.
À tous les niveaux. Point, au niveau de la santé, au niveau de l'environnement, au niveau des structures économiques et sociales et au niveau de la culture. Donc, face à ce système-là, dont tout le monde d'ailleurs est d'accord et conscient, y compris ceux qui sont à la tête de l'agro-industrie, parce que ce sont des gens intelligents. Simplement, ils sont eux-mêmes pris dans le système.
On a un peu besoin de gagner de l'argent tout de même.
Ils sont pris dans le système. Mais en tant qu'hommes ou femmes, ils sont conscients de ça. On en discute. Et justement, Alain Ducasse a raison, il faut que nous fassions ensemble.
On ne peut pas faire contre eux parce qu'ils sont là et ils existent.
Exactement.
Et ils ont des marges qui sont de plus en plus petites. La grande distribution, des marges de plus en plus faibles parce qu'ils en mettent de plus en plus. Donc il faut certainement prendre la décision d'en mettre de moins en moins dans les rayons, de moins emballés, de moins suremballés. Donc on est au bout d'un système.
L'agro-business, l'agro-industrie sur le continent africain, c'est quand même la filière porteuse pour aujourd'hui, pour demain surtout, pour le développement de l'Afrique, sur le plan économique.
Oui, on a quand même des territoires et on a quand même des étendues pour pouvoir essayer de favoriser certaines cultures.
Ça va apporter aussi la sécurité alimentaire au sens, non pas de la quantité, mais l'hygiène alimentaire.
Mais il faut une sécurité déjà, il faut de la formation, et il faut absolument avoir des produits de qualité. Il ne faudrait pas qu'on vienne envahir les sols avec des pesticides et puis des produits qui dénaturent l'environnement aussi. Donc il faut penser donc faire de cet agro-alimentaire business, mais avec quand même un cahier des charges, des restrictions et une préservation, parce que on va tuer
7 millions d'hectares, pour reprendre ce que dit Christian, 7 millions d'hectares par an deviennent stériles sur la planète, ne pouvant plus du tout être cultivés à cause des intrants et des pesticides. Donc voilà, on peut continuer aussi comme ça. Et comme dit souvent Alain Ducasse, on peut aussi choisir de ne rien faire.
Voilà, on peut aussi choisir de rester comme les moutons et
alors,
de subir.
Alain Ducasse, je sais que vous croyez quand même pas mal dans les jeunes générations. Vous allez nous expliquer dans quelques minutes d'ailleurs comment vous repérez ceux qui ont la fibre, la vocation pour la cuisine. 7 milliards de voisins, quite like. Nous discutons de la cuisine, du patrimoine culinaire, culturel, avec Alain Ducasse, avec Christian Regoubi et puis avec Christian Abégan qui publie un livre sur le patrimoine culinaire africain. De beaux regards croisés sur la cuisine française, sur la cuisine africaine. Alain Ducasse, dans un pays comme la France où le chômage des jeunes est un problème, combien il y a de postes non pourvus aujourd'hui dans la restauration ?
50 000. Et en plus,
50 000 postes non
notre
pourvus.
Industrie, c'est un extraordinaire ascenseur social. La plupart de mes collaborateurs partout dans le monde qui dirigent des restaurants, qui dirigent des cuisines, qui dirigent des postes de sommellerie, ils ont commencé à la sortie de l'école, on les a formés. Donc nous avons une obsession de former, de transmettre. De cela, nous sommes devenus éditeurs de nombreux livres de cuisine. Nous enseignons partout dans le monde. Nous enseignons aux Philippines, en Amérique du Sud, à Paris. Nous enseignons la pâtisserie, la cuisine. Nous partageons tout ce que nous savons. C'est une obsession. Et je pense que le rôle d'influence de la cuisine française, c'est de partager, de former. Et l'influence économique, en conséquence de ceux qui seront venus apprendre la cuisine française, auront envie de servir avec des vins français. Donc je pense que l'ombre portée économique est extrêmement influente.
Enfin, et on s'y applique tous les jours. Ce sont des boulots exténuants physiquement.
Ben oui, et alors il y a plein de...
Et alors
les sportifs... Non mais un sportif, vous pensez que s'entraîner pour être un champion du monde de natation, c'est des heures dans l'eau, quelle que soit la journée. Mais il y a du plaisir dans l'effort quotidien.
Ouais,
et j'y prends plaisir tous les jours. Et je travaille quotidiennement bien plus que les 35 heures, hebdomadairement bien plus que les 35 heures obligatoires, imaginez-vous bien.
Mais
j'ai pas l'air très fatigué.
Repérer les talents dans une génération digitale qui a un clavier de smartphone greffé au bout des doigts, ça peut encore coller avec la cuisine.
Non, il faut le rencontrer, regarder dans ses yeux s'il a envie, s'il est animé par la passion. Je regarde pas le CV, tous les collaborateurs et un certain nombre sont des acteurs de la gastronomie française aujourd'hui. Je les ai repérés à leur comportement, en m'asseyant avec eux, en regardant dans les yeux qui me partagent en quelques minutes la passion et l'envie qu'ils avaient de me rejoindre. Et finalement, je les ai accompagnés. Voilà, je les ai assistés pour les diriger, pour les orienter, pour les faire grandir. Et aussi, mon entreprise a grandi avec eux. Nous avons 360 collaborateurs que nous avons formés dans le monde. Nous sommes capables de leur parler demain matin, savoir ce qu'ils deviennent, s'ils sont mariés, s'ils ont eu un enfant, s'ils sont...
Vous dites que vous repérez un jeune en cuisine à la façon dont il épluche les légumes.
Aussi, oui, bien sûr. J'ai regardé Jean-François Piège il y a 25 ans, il y a un peu plus d'une vingtaine d'années, quand il est arrivé dans ma cuisine à Monaco, il y a 24 ou 25 ans. À son comportement, à la manière de s'installer à son poste de travail, je savais qu'il serait un grand cuisinier. Voilà.
Ça m'intrigue, ça.
Oui, mais je ne vais pas faire la liste parce qu'il y en a un certain nombre qui sont des acteurs. Vous oui, le comportement, nous... l'envie, vous savez, le comportement, la manière de se positionner, de dire j'ai envie, ça rayonne, enfin voilà, et c'est vrai que quand je regarde mes équipes, ils ont envie, sinon ils s'auto-éliminent, il n'y a pas besoin de licencier.
C'est une philosophie qu'on décline partout, et c'est une énergie qui sont des trésors inexploités. Collège culinaire de France, quand nous avons aujourd'hui, au bout de deux, trois ans, nous avons 1500 restaurants qui sont restaurants de qualité, 500 producteurs artisans de qualité qui nous demandent, qui nous disent comme nous voulons être absolument indépendants, sans subvention de l'agro-industrie, sans subvention de l'État, on demande 1 € par jour à ceux que nous avons sélectionnés, ils nous disent mais ça va nous apporter quoi ? La première réponse qu'on leur donne c'est rien, strictement rien que ce que vous allez y mettre vous-même. Et ça fonctionne, il y a des énergies parce qu'ils ont envie, parce qu'ils sont passionnés, qui entre eux sont absolument incommensurables.
Une notion de cooptation, la règle c'est fait pour être contournée, donc on a préféré fonctionner par cooptation.
Alors tout de même, bon, évidemment, dans les restaurants triplement étoilés, on peut prendre des risques, quoique vous écrivez pudiquement le plat de quinoa avec des racines ou la soupe d'herbe amère ne sont pas nécessairement d'un abord facile pour les convives.
Mais oui, parce qu'on a décidé de faire goûter, de voyager sur des goûts différents, l'amertume, l'acidité, ce sont des goûts pas communs, donc il faut réinitier pour préserver la diversité. Bien sûr, ça se vend, ça s'impose.
Ça s'impose. En Afrique, ceci dit, c'est la base de la cuisine, non, Christian Abégan ? La soupe d'herbe amère.
La biodiversité.
Il y a la biodiversité, et puis nous, on a beaucoup de... En fait, les enfants sont plus amenés à avoir plus de saveurs. Parce que la mer est une saveur que nous avons forcément. Au Cameroun, vous connaissez le majestueux plat l'undolé, donc cette feuille qui est une variété d'épinards, mais très, 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 très amère et dense, et qui, normalement, a été consommée un peu plus amère pour les personnes qui avaient une paresse intestinale. Donc, on essayait d'associer la médication et puis l'alimentation. Donc, toutes ces saveurs-là sont quand même assez prépondérantes et assez nécessaires, parce que déjà, les enfants, on doit les former à un certain palais.
Mais moi, je me suis inspiré de la cuisine végétalienne des temples bouddhistes de Kyoto. Une des influences importantes que j'ai intégrées dans mes manières de faire, c'est d'utiliser tout ce qui pousse sous terre et tout ce qui pousse de la racine et ce qui est dessus et dessous. Et on ne jette rien que la terre qu'on a grattée. On utilise l'épluchure, c'est la démonstration qu'on peut tout utiliser dans le végétal et qu'on peut en extraire la caricature gustative originelle, de jamais dévoyer le goût originel de ce que la nature nous a donné. C'est ça mon travail, c'est ça la recherche, et c'est cela qui aura de l'influence. C'est possible de le faire en haute gastronomie. Alors bien évidemment, c'est possible de le faire pour toute l'industrie de la restauration. Et il faut que cela descende jusqu'au goût des jeunes enfants qui puissent goûter des choses différentes que ce qu'ils mangent à la maison, puisque le frigo est plein de choses pas très bonnes. Tant qu'à faire, à l'école, peut-être qu'on peut leur donner envie, les initier à goûter autre chose que ce que la famille a dans le frigo et dans le placard.
Vous aimeriez une matière à part entière enseignée à l'école sur le patrimoine culinaire?
Oui, c'est ce qu'on va faire au travers de la Fondation Good Planet avec Yann Arthus-Bertrand dans le domaine de Longchamp. C'est 5 hectares et on va, c'est tout près de Paris, comme ça on a les instituteurs, les institutrices, les élèves, les parents pourront venir s'initier à nourrir différemment et mieux leurs enfants. Mais en vrai, ce ne sera pas de la théorie, ce sera de la pratique.
Sur le continent africain, Christian Abégan, est-ce qu'il y a des pays qui ont davantage cette prise de conscience de la nécessité de conserver, voire de faire ressurgir le patrimoine culinaire de leur pays? On sait que par exemple le Sénégal est très actif dans le consommer local, probablement plus que ses voisins.
Il y a le Cameroun, il y a le Togo, il y a beaucoup de pays, surtout par ce principe des jardins potagers. Pour former les communautés locales, inculquer les valeurs d'une culture saine qui valorise les produits locaux tout en préservant l'environnement. Pour inciter les jeunes aux notions de pratique, l'agriculture saine sans pesticides ni engrais chimiques, en préservant les cultures locales. Il y a beaucoup de mouvements qui se font, il y a beaucoup d'encouragements. Et comme je vous ai expliqué tout à l'heure, c'est un principe de santé publique. On ne retrouve plus certains produits qui étaient nécessaires parce que la pharmacopée était d'abord essentiellement aussi traditionnelle pour nous. On savait qu'on avait mal à la tête, on avait telle écorce, on avait un peu froid. fois, on avait telle plante. Mais ces produits ont tendance déjà à disparaître parce qu'on n'a plus des personnes sur place qui les cultivent. On n'a pas le référencement pratique. C'est pour ça que les potagers, on donne des semences maintenant et on forme les enfants. Parce que, traditionnellement, l'enfant est formé à table. Bon, dans d'autres civilisations, l'enfant choisit ce qu'il mange. Chez nous, en Afrique, non. Il mange ce qu'il y a, le repas qui a été... Et tout le monde est...
Et c'est largement encore comme ça aujourd'hui, ceci oui. dit, c'est vrai.
Oui,
ça.
Oui, largement. L'enfant, bon, ne choisit pas forcément, donc on sait. Et c'est surtout ce retour sur cette, pas prolifération, mais cet accompagnement avec les légumes. Avec les légumes, parce que ça a tendance à disparaître sur le principe d'alimentation en Afrique. Ils mangent des frites, ils mangent de la viande, des frites, ils mangent beaucoup de féculents, ils mangent beaucoup de viande. Mais légumes.
Grand retour des
l'avenir
légumes.
L'avenir de la planète, c'est légumes et céréales. Voilà. Locaux, saisonniers, moins de gras, moins de sel, moins de sucre. Et inversion des protéines.
Alors, les petites carottes vapeur dans les grands restaurants new-yorkais vendues, je ne sais pas combien de dollars, évidemment, les mauvaises langues.
Ça mesure d'exemple, c'est exemplaire entre ce que racontait Madame Obama et Dan Darber, qui est le chef dont vous parlez, qui fait prendre conscience aux Américains qu'ils peuvent manger différemment. Et je pense que ce rôle d'influence n'a pas de prix. Alors bien sûr, c'est encore une fois le modèle, il commence par ce qui est visible et ce dont on parle.
Dans l'Amérique de Donald Trump, ça vous inspire quoi aujourd'hui ?
Ah, je préférais l'orientation et l'influence de Madame Obama de manger local dans son jardin.
À la Maison Blanche. Christian Regoubi, comment allons-nous manger demain, alors, finalement ?
Le manger citoyen que l'on défend, que l'on voudrait promouvoir à travers le livre notamment, c'est trois choses, mais ça a été déjà dit sous divers aspects, c'est mieux acheter. Et ça demande une démarche, ça demande effectivement une éducation, ça demande une sensibilisation. Il ne faut pas oublier que le budget de l'alimentation, il y a encore 50 ans, représentait plus de 20% du budget moyen des ménages. Aujourd'hui, il frôle les 10%, il est en train de descendre. Au profit de quoi ? Au profit d'autre chose, on n'a pas le temps, mais n'ayant pas le temps...
Il faut s'équiper.
Voilà, donc il faut s'équiper.
On ne reviendra pas à 20%.
Et il faut se remplir. Ben, non, mais sauf que c'est peut-être un enjeu de liberté, j'y reviens, parce qu'on est asservi. Où on choisit d'être esclave et d'être asservi en ouvrant la bouche et en sachant pas ce que l'on mange, et donc en ne sachant plus qui l'on est, tout simplement, où on choisit, il n'y a pas d'élément sans faire une recherche, des efforts et une envie, une passion. Donc c'est mieux acheter. C'est ne pas céder au prix bas, parce que le prix bas, quel que soit son niveau économique, est un prix qui revient toujours plus cher. Toujours plus cher qu'un prix de qualité. Il revient toujours plus cher. Vous prenez un steak dans un hypermarché qui va être 20% moins cher qu'un steak dans une bonne boucherie, avec une filière qui respecte un certain nombre de choses, mais vous mettez les deux steaks dans l'assiette, il y en a un qui rend beaucoup d'eau. Donc vous avez acheté de l'eau, et pourtant vous n'avez pas de moyens financiers. Et ensuite vous payez pour votre santé, à moyen et long terme. Taux d'obésité explosant au niveau de la planète. On n'en parle pas. Ça devrait être un sujet de l'élection présidentielle.
On en parle beaucoup dans Priorité Santé, l'émission précédente.
Oui, mais les politiques devraient en parler. C'est quand même quelque chose de majeur. Et puis derrière, les filières de l'agriculture productive sont subventionnées par les impôts. Et donc, on subventionne ce qui nous tue, ce qui est quand même absolument extraordinaire, et ce qui tue les agriculteurs. C'est fabuleux.
Mais alors, un plat économe oublié, puisque vous dites toujours, Alain Ducasse, si c'est possible de manger pour très peu cher, à quoi vous pensez précisément ? Donnez-nous quelques trucs, là, avant de nous quitter.
En ce moment, j'ai une passion pour les pois chiches, voilà, et les primeurs. Actuellement, vous allez au marché, vous allez acheter un panier de primeurs, vous pouvez nourrir 10 personnes pour moins de 15 euros.
Qu'est-ce qu'on fait avec des pois chiches, très concrètement, là ?
On va les mijoter avec amour, avec quelques primeurs qui vont donner le goût du bouillon, de légumes, un filet d'olive, un peu de sel. J'ai une passion pour ça aujourd'hui, donc je veux faire partager ma passion des pois chiches bio.
Ça se fait tremper très longtemps la veille dans l'eau, si on les achète pas.
Tout doucement. Mais vous n'êtes même pas obligé de les faire tremper si vous les cuisez tout doucement. Il faut essayer. Il y en a qui cuisent très rapidement, d'autres s'ils n'ont pas vieilli des années dans un sachet dans le fond d'un placard.
Qu'est-ce que vous répondez à une ménagère ou un ménager qui rentre à 20h de son travail et qui doit servir à manger à 20h30 à
parfait,
toute la famille ?
C'est parfait, des lentilles. Voilà, ça cuit en moins de 30 minutes, un filet d'huile d'olive, de l'eau, un morceau de carotte, un morceau d'oignon, éventuellement une gousse d'ail nouveau, des lentilles, et 30 minutes après, vous pouvez manger un filet d'huile d'olive.
Un peu moins d'amortissement.
Mais c'est ce que je fais. C'est ce que je fais. Je suis sur Alain Ducasse, entre nous. Et la réponse est oui. Comme je suis obligé de goûter avec plaisir dans tous mes restaurants, quand je suis chez moi, je mange modestement. Et manger modestement, c'est finalement ce que je préfère parce que je mange quasi uniquement des céréales et des légumes de saison.
Point. Et du côté des enfants, ça râle ?
Mais pas du tout. C'est une décision. Depuis leur plus jeune âge, ils ont été habitués comme ça. Ils ne demandent pas de frites. Et quand les petits copains mangent des frites au restaurant, ils disent « Tu manges des frites, tu sais, c'est pas bon pour ta santé. » Ils ont 8 ans, 5 ans et 3 ans.
Ils ont pas
et
de
eux,
chance,
ils mangent des salades.
Ils sont le fils d'Alain Ducasse ou les
Mais non, ils ont été, c'est une question. C'est une décision. Et ils ne mangent jamais autre chose pour dîner que des céréales, point barre. Donc, ils ne demandent pas autre chose, puisque ça a été une imposition, ça a été une décision. C'est une décision. Se nourrir est une décision. Ce n'est pas un coût.
Christian Abégan, vous êtes en train de dédicacer votre livre pour Alain Ducasse. Vous allez l'offrir pour qu'il découvre le patrimoine culinaire africain, qui est encore vraiment le continent à découvrir pour les chefs français.
Vous voyez qu'il me reste des choses à découvrir. Ça me réjouit.
Je n'ai pas compris la question.
Non, j'étais en train de dire aux auditeurs ce que vous êtes en train de faire. Alors, le dîner avec juste des céréales pour la famille, ça vous connaissez finalement ?
Mais absolument, absolument. Vous savez, dans les régions de Dori, au Burkina Faso, quand on cultive le petit mil, c'est le quotidien du repas. Hein. Donc forcément, on a quand même cette éducation pratique et déjà aussi c'est les lentilles, mais on a aussi pas mal de on a des haricots rouges, on a tous ces légumineuses aussi qu'on consomme quotidiennement en Afrique.
Merci en tout cas à vous tous. Alain Ducasse, vous signez avec vous Christian Regoubi, manger est un acte citoyen. Christian Regoubi, vous appartenez donc au collège culinaire dont on a compris les fonctions. Christian Abégan, vous signez le patrimoine culinaire africain chez Michel Lafon. Manger est un acte citoyen, c'est au lien qui libère. Demain 7 milliards de voisins, la parole est à ceux qui veulent entreprendre en Afrique avec les conseils du coach Didier Akouété. C'est le moment de nous appeler si vous avez un projet, quels que soient les secteurs, les services, l'agriculture, l'énergie, le numérique.